Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis Montpellier-Rennes, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Serov.
Donc vous êtes une Montpellier-Rennes, pur jus.
Bah Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.
Amis auditrices et amis auditeurs de Racontez-nous votre Montpellier, bonjour. En avril 2024, j'avais consacré une émission aux Gilets jaunes à l'occasion de la sortie du documentaire intitulé « Des goûts de lutte ». Des goûts en deux mots. Il racontait ce mouvement social à partir de la parole d'ex-Gilets jaunes. Les co-réalisateurs du film, Emmanuel Rengoat et Pierre-Olivier Gomain, étaient venus au micro de Divergence. Emmanuel Rengoat est de retour, cette fois en compagnie de François Buton. Ils ont copiloté la réalisation du livre « Devenir des Gilets jaunes » publié en novembre dernier aux éditions du Croquant. Merci à vous d'avoir répondu à mon invitation. Emmanuel Rengoat, vous êtes politiste, maîtresse de conférences à l'Université de Montpellier, chercheuse au CEPEL, le Centre d'études politiques et sociales. François Buton, vous êtes également politiste, directeur de recherche au CNRS, au sein du laboratoire Triangle, action, discours, pensée politique et économique, lié à l'École nationale supérieure de Lyon. Mais vous habitez Montpellier. En 2024, vous avez co-signé un livre repère, Idées reçues sur les Gilets jaunes, un marqueur des luttes sociales contemporaines. Et voilà qu'avec d'autres chercheurs, notamment Sylvain Bordier, Christelle Dondaine et Étienne Walker, vous proposez de nouveaux regards sur le phénomène singulier que sont les Gilets jaunes dans la société française et dans les luttes sociales d'aujourd'hui. Il restait donc encore à analyser quel était le nouveau champ de décryptage du phénomène des Gilets jaunes, Emmanuel Rengoat.
Oui, d'abord bonjour et merci pour l'invitation. Alors cet ouvrage, il s'inscrit dans un travail de long terme et il s'inscrit aussi dans un cadre interdisciplinaire, ce qui n'était pas le cas des ouvrages précédents et ce qui est relativement peu le cas en sciences sociales, parce que ce n'est pas si simple, même si on est dans des disciplines connexes avec des géographes, des sociologues, des anthropologues et des politistes que nous sommes avec François. Il s'inscrit dans le temps long parce qu'on a commencé une enquête collective en 2020, et une de ses spécificités aussi dans cette idée de temps long, c'est que, vous l'avez dit, on s'est intéressé aux trajectoires biographiques, donc en gros l'idée c'est de comprendre un mouvement, comprendre pourquoi on s'engage, et pourquoi on s'engage dans le mouvement spécifique des Gilets jaunes, avec un mouvement très divers socialement, mais beaucoup de primo-contestataires, de gens qui n'avaient jamais fait un mouvement de protestation, des manifestations, encore moins occupé l'espace public, et qui pour beaucoup venaient de milieux sociaux assez populaires, donc des profils qu'on voit aussi peu souvent dans les luttes sociales. Donc voilà, notre questionnement, c'était pourquoi on s'engage, qu'est-ce qui fait qu'on vient, qu'est-ce qui fait qu'on reste. Et l'idée, c'est de le comprendre au travers des trajectoires biographiques, donc du temps long, donc réinscrire cet engagement dans des trajectoires de vie, qu'est-ce qui permet de comprendre cet engagement si on regarde la trajectoire familiale, la trajectoire professionnelle, les expériences de travail, les expériences géographiques. Voilà, réinscrire ça dans des trajectoires aussi affectives, professionnelles. Donc c'était ça aussi l'idée de cet ouvrage. Et pour
donc
finir,
ça s'appuie sur des entretiens fouillés, poussés.
On a passé des heures dans leur cuisine à plusieurs reprises, souvent des entretiens à plusieurs. On est revenu les voir et on est revenu les voir aussi parfois après le mouvement. C'est-à-dire que c'était un mouvement long qui a duré plusieurs années et on les a suivis aussi de cette manière-là.
Oui. Donc il y a cette richesse que le livre s'efforce de traduire et bien sûr analyse.
C'est ça, ce qui est une singularité de l'ouvrage aussi.
Très bien. Alors vous le savez, avant d'échanger sur votre livre, petit exercice, racontez-nous votre Montpellier. À votre tour d'apporter l'un et l'autre votre part au portrait de la ville, brossé collectivement par mes invités, par petites touches successives, semaine après semaine. Alors question François Buton, quel est votre lieu favori à Montpellier, que vous recommandez peut-être à vos amis de passage?
Oui, ou alors à mes amis de l'École normale supérieure de Lyon, où j'enseigne aussi. Effectivement, il y a beaucoup de lieux, évidemment, très beaux dans l'Écusson. Mais le lieu que j'aime particulièrement, c'est la Maison des Chœurs, parce que je chante dans une chorale universitaire, ici.
Place Albert Ier, c'est ça ?
Place Albert Ier, c'est une toute petite chapelle, l'ancienne chapelle de l'hôpital, en fait. Hein.
Désacralisée, je le dis au
passage. Désacralisée, dans laquelle maintenant on chante, et donc il y a pas mal de beaux concerts, de belles chorales, et donc... Nos prochains concerts, c'est en mai, si vous voulez venir.
Très bien.
Je fais de la
L'invitation est
lancée. Superbe chorale.
Et vous, Emmanuel Rengoat, comment parlez-vous de Montpellier à vos amis sétois, puisque vous habitez Sète?
Eh bien, si on reste un peu dans le thème des mobilisations, ça m'arrive souvent d'évoquer Montpellier quand il y a des manifestations à Sète ou au moment du 1er mai, par exemple. parce que les manifestations à Montpellier ont, on pourrait dire, presque une autre gueule. En tout cas, on n'a pas la même, ni les mêmes profils, même si pour la ville de Sète, il y a des mobilisations assez importantes, ni la même animation. Donc moi, puisqu'on parle des Gilets jaunes, on n'est pas très loin du rond-point de Pré d'Arène. C'est quand même un lieu symbolique où j'ai passé beaucoup de temps, beaucoup de samedis, beaucoup de journées, voire de soirées. Et puis évidemment, la place de la Comédie. C'est toujours impressionnant de voir dans quel état elle peut être en manif et dans quel état elle peut être quelques heures après, les touristes.
D'autres usages de cet espace public partagé.
Exactement.
Très bien. Alors revenons-en aux Gilets jaunes de Montpellier, de Sète et d'ailleurs. Alors, le livre s'appuie sur des biographies, on l'a évoqué. Comme nous en avons convenu, nous allons parler principalement des chapitres du livre, les derniers dont vous êtes les auteurs, mais auparavant, faisons ce parcours et abordons les quelques points saillants des autres chapitres. La question du rapport au travail et des relations des Gilets jaunes avec les syndicats est examinée dans le premier chapitre. Alors, François Buton, que faut-il retenir pour comprendre ce cadre particulier, ces relations au monde syndical qui semblent échapper aux catégories habituelles ?
Ce qu'on peut dire assez brièvement, c'est qu'on a eu l'image d'une opposition assez forte des Gilets jaunes aux syndicats. Et c'est vrai sans doute par rapport aux directions syndicales et confédérales surtout. Mais en fait, dans la réalité, il y avait des syndicalistes engagés qui faisaient partie du mouvement et surtout... Il y a eu des expériences de travail tellement différentes qu'on ne peut pas réduire le mouvement des Gilets jaunes à une opposition au syndicalisme, qu'il y a au contraire des formes, des configurations extrêmement variées, des gens qui étaient proches du syndicat, d'autres qui ne l'étaient pas du tout. Et donc, pour comprendre le rapport des Gilets jaunes au syndicalisme, il faut étudier de très près, en fait, les configurations locales qui sont très très différentes et qui évoluent en plus fortement. Et c'est l'intérêt de l'ouvrage en général, et de ce chapitre-là en particulier, de montrer beaucoup beaucoup d'exemples, de biographies assez fouillées dans la mesure limitée du nombre de pages qu'on avait. Donc on a beaucoup de cas très contrastés, des anciens syndicalistes, des gens qui n'ont jamais croisé le monde syndical parce qu'ils sont dans des secteurs d'activité où il y a très peu de travail syndical.
Et donc il y a eu le phénomène de découverte mutuelle, de connaissances qui s'est produit dans les ronds-points ou dans les manifs, qui a permis aux uns et aux autres d'échapper aux clichés.
Dans une certaine mesure, oui, c'est l'une des conclusions générales de l'ouvrage. C'est l'apprentissage d'une forme de tolérance, d'une forme de, à la fois de similitude dans des trajectoires biographiques marquées par la précarité, la difficulté, les problèmes financiers, les problèmes de travail, mais aussi rencontre de l'autre, rencontre de l'altérité. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment eu des... Une plus grande sympathie après le mouvement pour les confédérations syndicales, mais en tout cas, il y a eu des échanges. Donc c'est tout l'intérêt de ce mouvement qui était extrêmement divers, effectivement, socialement et dans son rapport aux politiques et à la représentation syndicale. Ouais.
Très bien. Alors le livre se penche aussi, autre chapitre, sur ce qu'un des chercheurs, Étienne Valcaire, appelle l'ancrage, en décrivant l'autochtonie. Alors, l'autochtonie, qu'est-ce que c'est ? Qui veut bien me répondre ? Et puis, une deuxième question suivra.
Alors, l'intérêt de ce chapitre, c'est justement l'apport de notre géographe de l'équipe, qui, lui, s'est intéressé à comprendre un mouvement social par l'angle de la spatialité. Qu'est-ce que ça fait si on regarde géographiquement où les gens sont ? Et effectivement, une des spécificités aussi de ce mouvement-là, bon, on le sait, hein, c'est d'avoir choisi des zones périurbaines, des zones qui ne sont pas les lieux habituels de lutte. Voilà, c'est pas, y a eu des manifestations en centre-ville, mais ce n'est pas là que le mouvement a commencé, ce n'était pas forcément là son cœur. Et pour comprendre ça, c'était intéressant de regarder les trajectoires spatiales, les lieux de résidence notamment. Et ce que met en avant Étienne Walker, c'est cette idée d'ancrage, cette idée d'autochtonie. C'est l'idée aussi qu'on va venir avec les compétences et les ressources qu'on a, et que le fait d'habiter dans un territoire depuis longtemps, ça peut produire aussi des ressources d'interconnaissance, des ressources aussi de connaissance du lieu. On va pouvoir savoir se débrouiller, où aller chercher des palettes, comment faire tenir un rond-point.
Une familiarité avec les lieux.
Une forme de familiarité avec les lieux, qui va pouvoir fonctionner comme une ressource au début du mouvement, qui peut aussi fonctionner comme une contrainte. Hein. C'était aussi un des intérêts de notre ouvrage que de comprendre pourquoi on s'engage, mais aussi qu'est-ce qui fait que le mouvement change, se transforme, s'arrête pour certains. Cet ancrage local-là, il peut aussi fonctionner comme une contrainte parce qu'il y a des enjeux de respectabilité, parce qu'il y a de l'interconnaissance. Hein. On connaît les gens, les gilets jaunes qui sont là, mais on connaît aussi les gens qui ne sont pas gilets jaunes et qui vivent dans la même petite ville ou le même petit village. Et quand le mouvement commence à décliner, quand le mouvement est aussi moins populaire, même s'il est resté longtemps très populaire, ça peut produire des effets de désengagement également.
Alors, est-ce que l'ancrage, c'est l'enracinement dans un territoire et un facteur de l'identité des Gilets jaunes tel qu'ils l'apportent ? Je suis de tel lieu, telle commune, voire tel quartier.
Alors oui, c'était aussi, et vous faites bien de le rementionner, c'était aussi comme ça que, pour beaucoup, les Gilets jaunes s'identifiaient. C'est-à-dire que sur les Gilets, c'était, ou dans les manières de se présenter, c'était Stéphane de Montpellier, ou voilà, le rond-point que nous, on a beaucoup suivi, ce sont les Gilets jaunes de près d'Arennes. Ce qui est aussi donc c'est une manière d'incarner cet ancrage local, tout à fait, de produire des identités aussi collectives. C'est une autre manière de produire ce nous, ce nous des petits que les Gilets jaunes ont mis en avant, parce qu'un mouvement social, ça construit toujours des identités collectives. Et j'ai perdu ma deuxième idée. Voilà, je m'arrête.
Mais avec la possibilité, si je peux compléter, avec la possibilité d'un déplacement malgré tout, c'est-à-dire que on peut être de quelque part et se déplacer dans les capitales régionales, à Paris, pour certaines manifestations, pour certains actes, voire participer à d'autres luttes, notamment le sommet du G7 à Biarritz en 2019, c'était un moment où, voilà. Donc, on est de quelque part et en même temps, il y a l'idée d'échanger. Les assemblées ont été notamment des lieux où on venait représenter sa petite patrie, son lieu, effectivement, mais aussi échanger et porter une parole plus large, plus générale.
Et j'ai retrouvé ma deuxième idée entre-temps. C'était simplement pour insister sur le fait que cette identification par le lieu, par exemple, c'est aussi une manière de ne pas s'identifier autrement, donc de prôner l'horizontalité, de dire on est tous des Gilets jaunes de cet endroit-là, on est des représentants d'un collectif, mais il n'y a pas de représentants. C'est une manière de rementionner une des caractéristiques principales de ce mouvement-là. Pas de représentants, pas de hiérarchie, en tout cas pas visible, pas affirmé comme tel.
Alors, le livre décrit ensuite les apprentissages mutuels, c'est la formule qui figure, au fil des actions des Gilets jaunes, en quoi ce phénomène donc, d'apprentissage mutuel, on l'a déjà un peu évoqué, détermine la perpétuation de l'engagement et l'inclusion au sein des groupes de Gilets jaunes. Cette imprégnation, qui veut bien me répondre, François peut-être.
Disons que ce chapitre est très intéressant, donc, écrit par deux collègues bordelais, des sociologues, Sylvain Bordiec et Antoine Bernard de Raymond, parce que il montre que il y a des figures particulières, il y a des acteurs sociaux qui sont peut-être des passeurs et peuvent échanger avec quasiment tous les membres de leur configuration locale, parce que ce sont des gens plutôt d'origine populaire, mais des transfuges de classe un petit peu aussi, des gens qui ont aussi un niveau de diplôme qui leur permet, comme souvent dans les mouvements sociaux, de parler au nom des autres et d'intervenir et de se poser en leader naturel, entre guillemets, tout en ayant conscience, de par leurs origines et par la finesse de leur compréhension du mouvement, eh bien qu'il faut se méfier de ce porte-parole-là et de cette prétention à représenter les autres. Et donc c'est ça qui est très intéressant, c'est ce travail de passage, de passeurs qu'ils font, et donc qui est très important, effectivement, pour tenir le mouvement, pour faire en sorte qu'il dure. Voilà.
Oui, ils ont contribué, vous le reconnaissez peut-être pas, à une espèce de coagulation, en tout cas, de convergence. Essence relationnelle ou dans leur capacité à s'exprimer.
Mais c'est pas si évident, parce que la diversité sociale était telle qu'il y a aussi la possibilité de bouger, de changer de rond-point. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, eux étaient dans un groupe particulier, et il y a toujours des exits, toujours des gens qui partent parce qu'ils ne sont pas contents, ou qui râlent un petit peu. Une forme, en tout cas, de cohésion. Ouais, ils travaillent à la cohésion d'un groupe localement, et il y a eu partout, dans tous les groupes locaux, je pense, et moi, quand il n'y avait pas ça, ça ne marchait pas, il y a eu des leaders, il y a eu des gens, on peut raconter un peu l'histoire près d'Arène aussi, par exemple, hein. On voit bien qui étaient les personnes qui, quand même, avaient un charisme, on leur reconnaissait des qualités qui faisaient qu'ils faisaient tenir le groupe, mais ils étaient tenus le groupe en lui disant toujours qu'ils étaient un groupe et qu'il fallait se méfier de ces fonctions de direction. C'est ça qui est très fort dans les Gilets jaunes.
C'est très fin, ça, pour le coup.
Voilà.
Alors, on poursuit... Le mouvement des Gilets jaunes a souvent été considéré comme antiféministe. Alors, une question à Emmanuel, bien sûr, mais François pourra répondre. Le portrait, le récit d'une Gilet jaune que le Ville présente, brossé dans un chapitre intitulé « Subjectivation de femmes et lutte contre l'identité de genre », nuance-t-il ou modifie-t-il ce jugement d'antiféminisme ?
Oui, alors ce qu'il faut toujours rappeler pour parler du mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'il est extrêmement divers.
Vous l'avez dit l'un et l'autre.
On l'a dit, on va le redire parce que c'est important, c'est intéressant pour le comprendre de ne pas homogénéiser. C'est-à-dire qu'il y a eu des trajectoires très différentes. Donc il y avait, avant de répondre directement à la question, je rappelle qu'il y avait des militants et des militantes féministes dans le mouvement qui ont mis en place, c'était minoritaire, hein, mais dans certains endroits, dans certaines villes, il y a eu des petites marches féministes et des revendications explicitement féministes. Donc c'est une cause qui a été portée tout en restant très très minoritaire et souvent portée par des profils plutôt militants, plutôt expérimentés, qui ne correspondent pas aux profils qu'on a évoqués tout à l'heure de primo-contestataires plus populaires. Hein. Je catégorise un peu, mais c'est ça la tendance. Ceci dit, il y avait, comme souvent dans les luttes sociales, il y avait beaucoup de femmes. C'était un mouvement relativement mixte, même s'il y avait un tout petit peu plus d'hommes, c'est ce que montrent nos enquêtes quantitatives. Et les femmes ont été aussi particulièrement visibilisées par les médias. C'est ça qui a été... Voilà, il y a eu beaucoup de discours sur « Ah, il y a beaucoup de femmes, bon, ça n'a rien de nouveau ».
Oui, parce que je vous coupe, parce ouais. que les journalistes, à partir de leur représentation spécifique, étaient étonnés qu'un femme sorte de leur cuisine, j'allais
tout
dire,
à fait. Alors,
pour descendre dans la rue. Quoi.
C'est un étonnement qui marque sans doute oui. un manque de culture ouais. sur les mouvements protestataires, parce qu'il y a toujours eu des femmes, et il y en a globalement dans les mouvements contestataires, mais en général, elles sont moins visibles. Donc c'est aussi ça qui explique ce regard médiatique. Elles sont moins visibles parce qu'il y a des formes de leadership. Comme là, il y a un mouvement qui veut donner à voir une image d'horizontalité. Les femmes ont été plus visibles parce qu'elles étaient aussi plus présentes. Les journalistes ont dû aller en fait, sur les ronds-points puisqu'il n'y avait pas d'interlocuteur pour couvrir le mouvement. Donc ils ont vu aussi ce qui se passait, beaucoup de femmes, et des femmes qui ont pris aussi des positions de leadership quand même. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, effectivement, c'est que la manière dont se sont construites les revendications... les identités collectives, mais aussi les processus de subjectivation, voilà, se sentir citoyen, devenir un sujet politique, acquérir les apprentissages militants dont on parlait tout à l'heure, ça ne s'est pas fait autour de l'enjeu ou de la revendication ou de la grille de pensée féministe. Mais ça s'est quand même fait souvent au nom d'être une femme ou dans des collectifs de femmes. C'est le cas en partie de l'enquêté qui est dans ce chapitre-là. On a aussi suivi, nous, des collectifs de femmes qui ne se connaissaient pas, mais qui se sont retrouvées, qui ont milité de cette manière-là. Donc c'est quand même une manière aussi de intégrer une lutte sociale, transformer sa représentation du monde, transformer son image de soi. Hein. On se rend compte que... et on acquiert des compétences, des capacités d'expression et des formes d'empowerment, hein, comme on dit beaucoup aujourd'hui. Qui ne se revendiquent pas comme féministes, mais qui sont quand même faites au nom de cette figure féminine. Dans le chapitre, c'est en tant que mère, en tant que grand-mère, que l'enquêtée, elle va prendre de sa place sur le rond-point, prendre des décisions, participer à donner du soin, mais aussi à donner de la voix.
Et donc, du coup, est-ce qu'on peut dire que si on considère que le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement d'émancipation politique, hein, il y a eu, pour partie... un mouvement d'émancipation
tout
des
à
femmes.
Fait. On peut tout à fait le dire comme ça. Il y a eu des trajectoires individuelles d'émancipation. C'est ça qui a été une des grandes puissances de ce mouvement-là, et c'est vraiment ce qu'on essaye de restituer dans l'ouvrage. Et c'est important de le faire pour nous, parce que c'est des choses qui ne se voient pas, qui passent sous les radars médiatiques, mais parce que c'est difficile à saisir. C'est un mouvement qui a cumulé des trajectoires d'émancipation individuelle, donc qui a produit collectivement en fait, des formes d'émancipation très fortes par tout ce qu'on a dit là. Par des partages de trajectoires de travail, par des partages aussi de trajectoires domestiques. Hein. Les femmes, elles ont aussi souvent des trajectoires familiales bousculées, on va dire. Et devenir citoyen, devenir des sujets politiques, c'est des choses que beaucoup de gens, y compris beaucoup de femmes, effectivement, ont expérimenté au travers de ce mouvement.
Alors, autre angle, François Mutton, pour votre part, vous décrivez un couple engagé dans le mouvement, une femme et un homme, des primo-contestataires, les auditeurs ont maintenant compris le sens de cette formulation. Qu'est-ce qui, dans leur engagement, dans l'action, distingue Béatrice Fabrice et qu'est-ce qui les rassemble? Alors, je dis au passage que, on l'a compris, c'est deux personnes, parmi d'autres, dont vous pensez que elles sont leur parcours, l'expression de leur volonté politique sont significatifs, mais c'est un couple parmi d'autres, hein, bien entendu.
Oui, tout à fait, c'est un couple parmi d'autres. Bah, l'idée principale, c'est de voir, en général, on dit que les mouvements sociaux séparent les couples parce que c'est très chronophage et que du coup, celui qui s'engage va se séparer de celui qui ne s'engage pas, ou alors l'inverse, celui qui ne s'engage pas ne supporte pas que l'autre s'engage. Ou alors, il y a beaucoup de rencontres. Il y a eu beaucoup de rencontres aussi chez les Gilets jaunes, ça a été pas mal documenté. Des rencontres amoureuses, affectives, plus ou moins durables. Il y a eu des écrits, il y a eu des films même sur le sujet. Et là, moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt qu'est-ce que ça fait de s'engager en couple, en fait. Et donc, ce que j'essaie de montrer, c'est que ça a beaucoup d'avantages en termes de forme d'engagement. C'est-à-dire que ça permet de tenir, ça permet de s'engager sur une forme de division genrée assez classique par certains côtés, avec l'homme qui va plutôt en manif et la femme qui prépare le rond-point éventuellement, mais ça plutôt plus tard. Et inversement, ce qui m'a intéressé dans ce couple particulièrement, c'est de voir en gros dans quelle mesure l'émancipation à la fois intellectuelle, pensée par soi-même, apprendre des choses, et politique, s'exprimer politiquement, dépend du mouvement, de ce qui se passe, de l'engagement, de la protestation, des échanges, tout ce dont on a parlé, et des socialisations intérieures. Et l'intérêt de ce couple, c'est qu'il a des formes de socialisation intérieure individuelle, donc différentes, qui font que, en fait, parce que peut-être je suis un sociologue bourdieusien, mais les socialisations passées jouent énormément, en fait, et que l'émancipation politique est plus forte chez lui, Fabrice, qui était quelqu'un de très très loin de la politique, qui était, je ne vais pas l'écrire, c'est trop long, mais alors que chez Béatrice, qui avait un rapport plus intéressé à la politique, c'est surtout d'émancipation intellectuelle. Et donc, ce sont des gens qui vont faire un petit journal, en fait, notamment, et c'est une sorte de protagonisme très fort, c'est-à-dire qu'ils vont faire un petit journal régulièrement, toutes les semaines, et le distribuer, et donc recueillir, à la fois témoigner du mouvement, mais aussi écrire eux-mêmes, donc devenir journaliste, on pourrait dire, le temps d'une année, avec un engagement très très fort. Et donc, voilà, c'est ce qui m'intéresse dans ce couple un peu exceptionnel. C'est à la fois ce que le mouvement leur fait et en même temps, comment ils tiennent dans le mouvement en couple et malgré tout, pourquoi il existe encore des différences au sein du couple. Donc, c'est une analyse à la fois du couple comme acteur et puis comme entité composite de personnes pas toujours d'accord.
Très bien. Alors, avec Cécile Joanneau, vous avez tous les deux travaillé sur un sujet qui me semble plus neuf. Les corps, souvent usés, brisés dans l'engagement des Gilets jaunes. Alors, vous avez donc pensé que le regard sur les corps pouvait faire apparaître un sens supplémentaire, jusqu'alors invisible. Donc, dans ce qui a été recueilli, qu'est-ce qui a été démontré des corps, là, Emmanuel ?
Oui, alors, c'était très intéressant à regarder, en tout cas à notre sens, pour le mouvement des Gilets jaunes. C'est pas complètement original. Le corps, c'est aussi une ressource qu'on va pouvoir utiliser ou exposer quand on n'en a pas d'autres. Donc c'est un regard qui a été travaillé aussi sur des mouvements de sans-papiers, sur des mouvements de grève. Je pense qu'on parlait de féministes, le mouvement des femmes. Bon, c'est des mouvements qui vont utiliser le corps pour protester, pour incarner des revendications. Ça s'est beaucoup fait dans le mouvement féministe depuis les années 70. Et effectivement, c'était intéressant d'utiliser cet angle-là pour le mouvement des Gilets jaunes. Ça avait été peu fait. C'est aussi une autre manière de les caractériser. Pour beaucoup, les Gilets jaunes, en particulier ces primo-contestataires qui nous ont beaucoup intéressés, c'est des gens qui avaient aussi, dans leur trajectoire, incorporé des dispositions, et là, le mot « incorporer » est vraiment ajusté, des dispositions à l'exposition des corps. Par le travail, il y a eu beaucoup d'expériences de la précarité, d'expériences de la difficulté, mais d'expériences aussi de l'endurance. Il y a une valeur aussi à pouvoir endurer, résister. Il y a aussi des trajectoires, je ne vais pas toutes les énumérer, mais de violence intrafamiliale, par exemple. Donc des expériences qui font intégrer aussi des dispositions à endurer la souffrance, mais aussi à une capacité d'exposer son corps, de le mettre en risque ou de l'utiliser. Et donc nous, ce qu'on a vu, si j'essaie de résumer un peu rapidement notre chapitre, c'est que cet usage du corps, il va permettre de comprendre à la fois l'engagement, le fait qu'on va pouvoir mettre son corps à disposition, en faire une ressource politique. On va s'exposer en manifestation, mais on va aussi simplement être là sur les ronds-points, participer à l'occupation, utiliser des savoir-faire qu'on a acquis avec ce corps-là, bricoler, cuisiner, accueillir. Donc plein de savoir-faire qui sont aussi des savoir-faire et des compétences populaires qui permettent d'expliquer aussi pourquoi tout d'un coup on a des primo-contestataires qui sont là, qui restent. C'est aussi parce qu'ils y trouvent une utilité, de la reconnaissance à des compétences qui deviennent politiques et qui se basent sur l'usage des corps, ce qu'on ne retrouve pas dans d'autres mouvements. Et puis aussi, il y a une capacité, donc c'est ce que je disais, à utiliser son corps en manifestation. Pour certains, donc, aller au contact, résister, mais aussi Prendre soin, c'est l'autre grande ligne du chapitre, prendre soin en manifestation. On a une belle trajectoire qui était un enquêté de François qui va s'exposer, savoir utiliser et mobiliser son corps en manif et devenir street medic. Et puis le dernier élément de ce rapport au corps, c'est prendre soin. Une des grandes choses qui font tenir le mouvement des Gilets jaunes, c'est le soin mutuel, les rapports de solidarité qui vont permettre aussi ce mouvement-là, comme beaucoup de mouvements, on parle de trajectoire d'émancipation, mais c'est aussi un mouvement d'intégration sociale qui construit du lien social sur le long terme, et notamment des trajectoires de solidarité qui vont s'incarner dans des rapports au corps d'entraide. On va se suivre dans les années suivantes quand il y a des opérations, on va se cotiser pour financer des prothèses, donc il y a vraiment des liens forts et corporels, très physiques, très affectifs qui se sont liés.
Et si je peux ajouter quelque chose, il y a aussi une phrase, il y a aussi l'idée de la politisation du corps, c'est-à-dire qu'en fait, le corps souffrant n'est pas un corps souffrant comme ça, c'est pour des raisons politiques, et donc il faut le politiser, ça, il faut dire que, voilà, si mon corps souffre, si j'ai des problèmes dedans...
C'est pour des raisons qui me sont extérieures.
Et voilà, et qui ne dépendent pas de moi, c'est pas de ma responsabilité, c'est pas parce que je suis pauvre, mais c'est parce que la société l'a fait ainsi.
On a un sentiment d'injustice.
Alors, on arrive vraiment, on s'approche de la fin de l'émission, vous avez dit sur le long terme, et donc je vous propose... Pour finir notre échange, de s'appuyer là-dessus. Dans le dernier chapitre, ça pose la question, toujours là. Alors, François Buton, qu'est-ce qui, dans votre analyse, qu'est-ce qui se perpétue du mouvement des Gilets jaunes sans faire un travail de prévision qui serait hasardeux?
Oui. Non, mais on peut même observer ce qui se passe depuis que les Gilets jaunes n'existent plus, si tant est qu'ils n'existent plus, c'est pas à nous de trancher. Bah, on peut voir deux choses. D'une part, du côté des représentations, il est évident que les Gilets jaunes sont toujours là, dans les têtes, parce, aussi bien du côté des puissants, du pouvoir, qui craignent, dès qu'il y a un nouveau mouvement, on l'a vu avec Blocontou en septembre dernier, c'est le retour des Gilets jaunes, qu'est-ce qui va se passer.
La peur du barbare, presque, ou pas loin. Oui.
Voilà, la peur de la contestation et de la violence aussi, parce que malgré tout, le fait d'avoir aussi recouru à des registres émeutiers a vraiment marqué la classe politique et médiatique, je pense d'ailleurs. Donc il y a ces représentations-là, et qui sont d'un côté figure de repoussoir peut-être, ou de danger pour la classe politique, mais plutôt un catalyseur de mobilisation pour plein de protestations sociales, on l'a vu encore avec Blocontou. Donc ça, je pense qu'il y a ce côté-là. Et puis à côté, quand même, des acteurs, que sont-ils devenus? Certains sont retournés dans des luttes d'où ils étaient déjà, d'autres sont retournés cultiver leur jardin, mais beaucoup continuent à se voir. Alors il y a une notion très connue en sociologie qui s'appelle « abeyance structure », qui est l'idée qu'il y a des réseaux dormants, qu'il y a des gens, une fois qu'on s'est mobilisé, c'est pas, on n'oublie pas tout. Et donc, il y a des formes de mobilisation latente, de possibilité de se réveiller. On l'a vu avec Blocontou un petit peu, on a vu des gens revenir, hein, vraiment. Et l'idée, c'est que très souvent, qu'ils nous disent quand on les recontacte, parce que nous, nos gilets jaunes, entre guillemets, on les contacte encore beaucoup, eh bien, c'est que ça ne reviendra pas sous la même forme, mais il y a quelque chose qui va revenir.
Et donc, une espèce de capacité d'action, de mobilisation en veille.
En veille, et puis surtout beaucoup plus informée. Beaucoup plus, je pense, par exemple, beaucoup moins naïf par rapport aux médias, typiquement. Beaucoup, beaucoup moins naïf par rapport aux médias.
Alors, Emmanuel, bon, même question. Et nous clôturons notre échange sur votre réponse. Merci.
Oui, bah pour compléter ce que dit François, je souscris complètement. Il y a sans doute aussi eu des formes, le mouvement a infusé aussi dans la culture protestataire et dans la mémoire collective, hein, on le disait, la mémoire collective politique, médiatique, mais aussi citoyenne. C'est ce qu'on voit d'ailleurs, cette infusion dans les luttes sociales, elle se fait à l'image du champ. C'est quelque chose qu'on a traité dans l'ouvrage précédent, Idées reçues sur les Gilets jaunes. Aujourd'hui, dans les manifestations, le champ, on est là, il est repris, y compris par des collectifs, voilà, qui n'ont rien à voir, entre guillemets, avec le mouvement, qui n'y étaient pas, ou des collectifs féministes, ou des collectifs syndicaux. Et donc cette infusion, cette transmission, hein, du mouvement dans les luttes sociales, dans une culture protestataire, c'est sans doute autour de l'idée d'action directe. Donc l'idée de, on est coordonné, mais on n'est pas structuré verticalement, donc des petits groupes peuvent faire directement, là, prendre une décision, aller bloquer quelque chose, aller manifester quelque part, et sans doute aussi une logique d'opposition plus frontale aux autorités. On va faire, entre guillemets, des manifestations qui ne sont pas déclarées, donc qui ne sont plus tout à fait des manifestations. Et ça a aussi, je pense, marqué les syndicats. On l'a vu dans les mouvements suivants, hein, le rapport des bases syndicales aux directions a été marqué par cette capacité de s'imposer aussi dans l'espace public. Ils sont allés, il y avait en partie des primo-contestataires, donc ils ont innové, ils sont allés, je l'ai dit, dans les espaces périurbains, mais ils sont allés aussi dans les espaces de pouvoir. Ils sont allés
devant
sur les champs,
la préfecture,
exactement,
par exemple.
Devant la préfecture, ils ont voulu, entre guillemets, prendre l'Élysée. Donc là, voilà, il y avait quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis longtemps dans les luttes sociales.
Le « on est là » est important, hein. Le « et »
Oui.
C'est le présent perpétuel. Voilà, là, c'est qu'on est là. Et puis le on, effectivement, qui est second derrière, c'est une prétention à représenter le peuple, les classes populaires. Mais on est là, c'est un slogan qui est très, très fort et qui vient de... Bon, qui a une petite histoire, mais je ne vais pas vous la raconter maintenant, il faudra lire.
Ça sera peut-être pour une autre fois. Alors, oui. Je rappelle dans les deux livres auxquels vous avez contribué, le premier, c'était « Idées reçues », une vingtaine de contributeurs et d'entrées sur cette interrogation d'idées reçues. « Idées reçues sur les Gilets jaunes, un marqueur des luttes sociales contemporaines » et celui dont nous venons de parler, « Devenir des Gilets jaunes », publié aux éditions du Croquant. François Buton, Emmanuel Rengois, merci à vous.
Merci à vous.
Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Sarov.
Donc vous êtes une montpelliéraine, pur jus.
Ben Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Boudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.